Accès libre avec Luc Fortin.
Ce qui était encore avec moi cette semaine pour
oui,
Accès libre du 16 décembre.
Ça roule.
Ça roule, mais pas toujours comme je le souhaite. Maurice, je pensais à toi parce que je me dis, oh, tiens, je vais ventiler, je vais avoir besoin de lui. J'ai été ramassé par le transport adapté à 10h30 et à 11h10, j'ai repassé à un coin de rue de chez moi.
Ah oui, tourne en rond?
Non, il est allé chercher des gens complètement à l'est, puis tout ça, avant de revenir devant chez moi pour aller vers l'ouest.
On appelle ça quelqu'un qui connaît pas sa ronde de lait.
C'est l'ordinateur qui programme tout ça, puis en tout cas, je vais les appeler. C'est pas la première fois, puis je suis pas le seul, mais c'est un 40 minutes perdu. C'est ça le problème. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? Des arrondissements de Montréal qui se préparent, certains plus vite que d'autres, à aider les gens à mobilité réduite pour le déneigement. Cégep de Granby qui offre une formation sur les environnements multisensoriels. On va voir de quoi il s'agit. On va également s'intéresser aux étudiants universitaires avec un handicap visuel. Et deux mois presque sur le cul. Deux mois presque sur le cul pour deux raisons. En fait, j'avais envie de parler à Manon Bissonnette. Manon qui est non seulement la moitié de notre couple de parents d'enfants. On a eu un grand bonhomme ensemble. Il était petit à l'époque. Et donc, elle a passé deux mois en fauteuil roulant, malgré elle. Et presque sur le cul également par la réaction autour d'elle, par... peut-être les difficultés encourues. Manon, bonjour d'abord.
Bonjour, Luc.
J'avais envie que tu nous racontes un peu ce que tu m'as dit lorsque je causais avec toi la semaine passée, parce que je trouvais intéressant que les gens entendent un peu ta réalité alors que ça vient pas de quelqu'un qui est toujours en fauteuil roulant. Peut-être nous expliquer d'abord les difficultés de mobilité. Là, pas nécessairement pourquoi tu es en fauteuil, mais... est-ce que tu peux marcher? Est-ce que tu es toujours en fauteuil? Est-ce que...
En fait, je me déplace dans la maison à l'aide des béquilles.
Okay.
J'ai une amie qui m'a prêté un déambulateur que j'utilise quand je dois transporter quelque chose. Parce que, mettons que transporter un bol de soupe avec des béquilles, la soupe, elle tient pas sur le côté. Déambulateur, c'est commode dans la maison, mais bon, faut y aller tout doux, ça passe pas, ça passe serré, mettons. Mais pour l'extérieur, comme tu disais, la chaise roulante, c'est mon outil, parce que je peux pas rester longtemps debout, puis comme on dit, avoir un pied dans le plâtre ou avoir une mobilité réduite, ça implique beaucoup de choses. On pense pas, moi en tout cas, je pensais pas que ce serait difficile de rester debout. Fait que oui, la chaise roulante, quand je dois aller à des rendez-vous, que j'ai envie d'aller magasiner, ça c'est une autre histoire, le magasinage, c'est le temps des fêtes, c'est encore plus difficile là, de se déplacer dans les centres d'achat et tout ça. Là.
T'en as pour combien de temps encore?
En fait, j'ai eu une moyenne nouvelle. En principe, je devais commencer à marcher samedi dernier. Mais pour le moment, c'est pas possible. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai très, très, très mal au talon. Donc, je peux mettre aucun poids sur mon pied alors que l'opération a eu lieu sur le devant du pied et l'orteil. Là.
Mais est-ce que ça se peut que ce soit juste parce que tu as été un petit peu trop pressé, parce que le médecin t'avait dit deux semaines et toi, tu as décidé après une semaine, je vais tester la chose?
Ben, tu me fais penser un peu à l'infirmière qui m'a répondu ce matin, qui me disait « tout est normal, tout est normal ». M'avait dit mon médecin entre une et deux semaines.
Ouais, ouais.
Donc, moi, je suis allée un peu dans le milieu parce que je réalisais qu'il fallait que je commence à marcher si je voulais reprendre le travail. Mais l'infirmière, elle m'a dit « ah, vous ne marchez pas encore, ben là, enlève cette botte-là, là, commence à marcher ». Alors, c'est un peu moche parce qu'on dirait que elle va contre les indications de mon orthopédiste alors qu'elle avait mon dossier devant elle.
Ouais. Revenons sur ton expérience. Par contre, désolé de voir qu'il y a comme un contre-temps là, dans cette progression-là.
Oui.
La première chose qui t'a frappé, qui t'a surpris dans cette nouvelle réalité, je pense surtout à quand tu es obligé de sortir de chez toi.
OK, si c'est cette réalité-là dont tu veux parler en premier, oui. Ça n'était pas ma plus grande préoccupation.
Ah non, hein?
Mais oui. Non, c'est non. Mais bon, c'est sûr que je suis chanceuse quand je pense à la neige et tout ça. Moi qui aime tant la neige, c'est pas si tant pire pour sortir. J'aime ça dire si tant pire. C'est pas pour sortir, pour se déplacer, ça va. C'est sûr que quand je pense à tout ça, je pense évidemment à l'inaccessibilité des salles de bain, des portes qu'on dit accessibles alors que l'endroit est accessible peut-être à l'intérieur, mais on peut même pas ouvrir la porte tellement elle est pesante. Il faut toujours être avec quelqu'un, puis même avec quelqu'un, bien souvent... c'est difficile pour la personne de tenir la porte et de passer la chaise roulante temps. Là.
Ah
ouais. Ça fait partie des sorties. Puis je sais pas si tu veux que je te parle des salles de bain.
Oui, ben c'est toi qui décides.
Ben écoute, quand on sort, c'est sûr qu'on passe à la salle de bain à un moment donné, que ce soit dans un centre d'achat ou un restaurant. Encore là, c'est la même chose. C'est la porte qui se dit, la salle de bain qui se dit accessible, mais que tu peux pas passer la porte parce qu'elle est trop pesante. Tu rentres dans la salle de bain, oui, il y a une cabine qui est réservée ou en tout cas qui est accessible aux personnes à mobilité réduite, alors qu'il y a quelqu'un qui est dedans puis qui a absolument pas besoin d'utiliser nécessairement cette salle de bain-là, alors qu'il y en a quatre autres là, qui sont
disponibles. Oui, mais tellement plus spacieuse.
C'est vrai, mais tu sais pas à quel moment la personne va rentrer puis elle va avoir besoin. Tu dis, bon, il y a personne, je vais y aller. T'sais. Sauf que moi, comme à l'hôpital, je suis allée. Quand je suis rentrée, il y avait quelqu'un dans la toilette. Tant bien que mal, je suis rentrée avec les béquilles. Tu es obligée de te tenir avec les murs. Il n'y a pas de bar. Moi, ma mère m'a appris à ne pas m'asseoir sur un siège de toilette. Donc, tu es accroupie comme un oiseau sur une branche. Puis finalement, tu te rends compte que la personne, elle sort de là avec des talons hauts. Puis, tu vois en dessous de la porte. Puis qu'après ça, moi, je sors de là. Je me lave les mains tant bien que mal. Des fois, là, debout, ça va pas si pire, parce que si je peux me déplacer avec les béquilles, ça peut être pas si pire. Mais avec la chaise roulante, souvent le savon il est inaccessible. Le séchoir, ça te coule tout le long des bras parce qu'il est trop haut.
Ouais.
Puis la madame qui rentre après moi, ben elle s'en va directement dans la toilette encore là, qui est supposément.
Même si elle est ambulante.
Absolument. Ouais, oui. Puis on est dans un hôpital. Donc.
Ah oui.
Mais parle aussi, là, c'est la même chose dans les centres d'achat. Ça fait partie là, des sorties. Tu sais, quand il faut que tu y penses. C'est...
Puis il te semblait dire qu'à l'intérieur, disons, dans ton environnement, là aussi, il y a eu des préoccupations. Là.
Chez moi, tu veux dire?
Oui.
Chez moi, c'est chez nous, c'est pas possible d'avoir la chaise roulante dans la maison. Je dois avoir le pied soulevé la majorité du temps. J'ai la chance d'avoir mon copain avec qui je partage ma vie, qui m'aide beaucoup. On transporte la chaise de bureau pour mettre mon pied à la cuisine, qu'on met mon pied si je veux jouer à l'ordinateur, si je veux être à l'ordi. Je peux faire ça. La toilette en haut, je me suis acheté un petit bain, j'ai Renaissance pour 4$, je prends ma douche, mais c'est long, ça fait mal au dos parce que t'es pas dans une bonne position, prend une éternité pour se laver, une éternité surtout pour sortir du bain et s'essuyer, tout ça. Se rhabiller, tout ça, ça prend un temps fou, là. C'est beaucoup plus long. Faut y penser encore là. C'est des choses que t'es pas. Tu penses pas à ça d'habitude. Tu prends une douche, tu dis bon, ça va prendre 20 minutes, je vais être habillé, tu sais. Mais là, c'est bien plus long que ça, là. T'sais. Puis les cadres de porte, ça passe pas partout. Je peux pas rentrer avec le déambulateur dans la
salle. Mais ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que bon, y a des gens pour qui, malheureusement, la situation dure. C'est longtemps, puis ils sont déjà dans une maison qui était la leur, qui devient inaccessible. Et là, le programme d'adaptation de domicile, là, le fameux PAD, ça peut prendre 18 mois, 22 mois, on s'arrache les cheveux. Là.
Tu veux pas penser à ça.
Mais non.
Tu veux juste pas y penser, c'est... Non, tu veux pas penser à ça.
J'ai envie de te demander...
Demande.
On entend que ton copain, il a été fort avenant, mais en général, les gens étaient ou sont gentils ou décevants?
Ils sont gentils.
OK.
Oui. Mais pour moi...
Oui.
Puis moi, je pense aussi, plus ça paraît, plus qu'ils sont fins, là. Si j'avais plus de bottes ou que j'avais pas eu de plâtre, ou peut-être que là, ça serait différent. Mais je pense que plus ça paraît, puis en plus, j'ai le pied dans les airs, là, tu sais, je prends de la place, là, tu sais. Non, les gens, ils sont gentils. Les gens, ils se proposent avant même que, tu sais, tu t'approches de la porte, puis ils veulent te l'ouvrir, même si mon copain est là. Ça m'est arrivé une fois, je suis allée me promener au Carrefour Laval. Puis il y a une dame qui est sortie d'un magasin, puis d'une boutique, puis elle m'a juste comme rentré dedans, parce que comme poignée solide là, dans la chaise. Là, puis elle m'a regardé d'un air, mais moi je suis pas bien fine parce que je l'ai regardé du même air, puis j'avais pas du tout envie de m'excuser. Pas nécessairement fière de ça. Ma mère, elle dirait que je t'ai pas élevée de même. Mais bon, c'est la seule fois, je te dirais, que les gens, que quelqu'un n'a pas été sympathique. Autrement, oui, les gens sont sympathiques.
Et ça, c'est les gens, appelons-les les étrangers. Ton entourage, as-tu senti là, que, je sais pas moi, les gens, ils se sont rapprochés?
Ben, tantôt, quand tu m'as dit que tu voulais que je te parle de mes sorties, je pense que c'est ça mon plus gros problème, c'est d'être seul.
Okay.
Les gens, tu sais, ils savaient, puis moi, j'en avais parlé beaucoup avant dans mon entourage, tout ça, t'sais. Parce que j'ai quitté mon travail pour une longue période. Donc, les gens savaient, ils me disaient tous, tu nous appelleras, puis dès que tu ton opération, puis tout ça, donne-nous des nouvelles, puis
on va aller prendre un café,
ça, on va sortir, puis avec la chaise, puis c'est pas tout à fait ça, là. Et pas tout à fait ça. J'ai même acheté une chaise roulante. Moi, je suis un peu capotée, là. J'ai acheté une chaise roulante, un petit banc, des béquilles. Il y a quelqu'un qui m'a même prêté une marchette fixe, là, mais ça marchetait pas bien.
Mais qu'est-ce qui est le plus contrariant? La frustration parce que c'est pas nécessairement de le faire seul, mais de ne pas pouvoir le faire? C'est-à-dire aller dans tel ou tel endroit, dans tel petit café, mais il y a trois marches? Ou c'est justement de sentir que les gens ont pas agi comme ils l'avaient dit?
Non, c'est pas tant l'accessibilité comme les gens qui se manifestent pas là. Puis tu leur parles, puis là, c'est parce que je m'en vais, j'ai beaucoup de magasinage, hein, c'est les fêtes.
Ouais.
Là, telle date, là, ça va être correct. Ah ben là, mais moi je m'en vais en voyage, là, puis quand je vais revenir, là, c'est sûr, on va sortir.
Ouais.
Ah, puis l'autre, c'est une autre affaire, là, tant mieux si j'ai oublié. Mon autre ami, elle s'en allait dans un séminaire de je ne sais quoi. Dès que je reviens, là, on va faire ci, ça. Puis là, ben tu leur reparle, puis joyeux Noël, là, puis j'ai bien hâte que tu reviennes au travail. Fait que là, tu veux dire, garde, je te reverrai pas avant le travail.
Ouais. Et c'est vrai, probablement pour un peu tout le monde, je veux dire, moi, combien de fois les gens, on se dit, on va se voir durant les vacances, puis finalement... Mais quand t'es limité et quand t'as besoin d'eux, on dirait qu'on le réalise davantage. Sans avoir des attentes, c'est à la fois une sorte d'attente barre oblique besoin qui fait en sorte qu'on le dénote davantage. Une petite dernière, puis bon... S'il y en a pas, il y en a pas, mais est-ce qu'il y a quelque chose, disons, de positif à travers cette période qui s'achève, là? En tout cas, on le souhaite, là, malgré le setback, mais je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis, ça m'a permis quand même de...
Ça m'a permis de lire.
OK.
Mais non, suite à tout ça, écoute, c'est sûr, moi, je réalisais pas non plus tout ce que ça allait impliquer au niveau de mon copain. Et puis, je suis contente qu'il tienne le fort. Pascal, c'est un gars qui est patient, qui se choque pas. Ça me surprend pas, mais je vois que ça dure, puis il tient le fort. Là, peut-être une amie, justement. J'en ai une là, qui se manifeste un peu.
Okay.
Supposé encore là faire des trucs cette semaine parce qu'elle a 2 semaines de congé. À part là, d'espérer là, que je puisse reprendre mes activités très bientôt, mais ça, c'est...
Puis le travail aussi.
Mais ça, c'est à cause de l'opération. Là. Ouais. C'est pas nécessairement l'expérience.
Non, je comprends. Je comprends.
Mais...
En tout cas, je sais pas si on dit rétablissement ou...
Je pense que tu peux le dire.
Ouais. surtout que ce soit pas trop lourd, que la patience règne sur toi.
Oui, parce que moi, je suis quelqu'un de très grouillante. J'aime bouger, j'aime faire des trucs, j'aime pas rester en place. Puis aussi, juste pour dire vite fait comme ça, ça implique tellement plus aussi, tu sais, j'ai mal au dos, j'ai mal aux fesses, j'ai mal au cou. Puis moi, je vis avec un handicap visuel quand même peu. Donc, lire, à un moment donné, ça va faire. C'est plus que ça. C'est plus que juste être... je peux pas marcher. J'ai un pied handicapé.
C'est clair.
Ouais.
Bon, un peu de musique.
J'en ai plein d'autres encore.
On a déjà débordé, me dit monsieur à la régie. Mais tiens, un petit peu de musique. J'ai pensé à toi. On va écouter du Pilou.
Bon, c'est bien, c'est le nom de mon chien.
Tout à fait, le premier. C'est ça. Oui. Ouais. Merci, Manon.
Hey, merci à toi, Luc. Au revoir.
J'ai pris le bateau, les vagues au loin. Seul dans le vaisseau, sans penser à demain. Quand l'encre coule, la dérive prend son sang. Le dos dans l'écart. Ficelle dans le vent. On s'est vu souvent illuminer l'écran. Présent en 4 murs, ta vérité me fend. Briller ensemble comme des étoiles sous le silence. Délier nos langues dans le bois, sculpter les sens. Creux de la flamme, j'ai trouvé tes mots pour ajouter au drame. Les autres s'en est fous. Tu ne dis mot et je me sens bien. J'ai collé les morceaux tout au long. Quand l'encre coule, la dérive prend son sens. Accosté sur une île, naufragé de tous les temps.
Passager Pilou. Pilou qui est devenu un petit peu plus électro avec sa nouvelle parution, en tout cas sa parution plus récente. Les étudiants universitaires ayant des handicaps visuels n'ont pas toujours accès à des versions adaptées des manuels scolaires. Je dis ça d'un ton... j'utilise ce ton-là parce que c'est pas nouveau. C'est une réalité que l'on pourrait penser est derrière nous et pourtant... INCA Québec, CNIB et bien d'autres organismes et mouvements étudiants s'arrachent encore les cheveux parce que quand tu vas à l'université puis que tu reçois tes manuels 3 semaines, 4 semaines après le début de la session et qu'il t'en reste 8, c'est pas évident. David Devers est directeur général de INCA Québec. Salut David.
Bonjour, Luc.
Quand on parle de manuel adapté, on parle de quel format?
Ah, ben ça peut être à différents formats. Les trois principaux, en fait, le, je dirais même celui par excellence, c'est le format DAISY, qui est un format standardisé qui inclut autant la partie audio d'un livre, mais aussi la possibilité de naviguer dans le livre vraiment. Ça, c'est pratique.
Pour électronique, là, oui.
Exactement.
De façon électronique.
Ouais. Ouais, mais bien souvent, on va plus retrouver des versions braille d'un livre, fait que ça se fait encore, braille imprimé, et tout simplement un format électronique qui peut être soit grossi à l'écran ou qui peut être écouté par un lecteur d'écran.
Qui rend ces livres-là accessibles?
Eh bien, dans le cas des études universitaires, normalement, dans chaque université, il y a un département d'accessibilité pour les étudiants. Et donc, c'est ce département-là qui va soit essayer d'avoir les livres en format déjà électronique par les éditeurs, ou ils vont être obligés de numériser le livre et le faire à l'interne.
Donc, on pourrait penser que ça va plus rapidement que si tu es obligé de prendre un sous-contractant externe. D'où vient le problème? Est-ce que c'est l'université? Est-ce que ce sont les éditeurs et les droits d'auteur? Est-ce que c'est parce que le département est surchargé et il n'y arrive pas à fournir?
Ben, je pense que tu as touché à plusieurs facettes du problème exactement. C'est sûr que la première chose qu'il faut s'assurer, c'est que les étudiants soient proactifs et qu'ils essayent le plus possible de savoir et de soumettre leurs livres d'avance pour donner suffisamment de temps aux universités. Fait que c'est sûr que si l'étudiant vient une semaine après le début de sa session et a besoin de ses livres, ben il y a des délais en partant.
Ouais, ouais.
Fait que ça, pour éliminer les problèmes en partant, il faut que les étudiants soient proactifs. Mais la plupart le sont. Donc après ça, c'est qu'ils ont une procédure. Ils doivent d'abord contacter les éditeurs et leur donner un certain délai pour répondre. Fait que parfois, ça peut être chez l'éditeur que le délai est trop long ou les éditeurs veulent pas fournir le format électronique du livre. Et donc, après ça, ça va dans la production interne. Ils doivent littéralement couper le livre et scanner chaque page à la vérification du livre et tout. Fait que c'est là que quand il y a plusieurs demandes, ça prend en moyenne 3 semaines à 1 mois pour qu'ils le fassent à l'interne.
Les professeurs donnent le titre des bouquins quand? Est-ce qu'ils peuvent, parce que le prof, lui, il sait une couple de semaines, voire 1 mois, 2 mois avant le début de son cours, quels seront les textes à lire?
Oui, c'est ce qu'on souhaite. Puis, en fait, moi, je l'ai vécu quand je suis retourné aux études, là, 10 ans, ce problème-là. C'est que souvent, on ne sait pas, on sait juste peut-être 1 semaine ou 2 avant le début des cours, c'est qui nos professeurs et c'est quoi nos livres. Pour être proactif, j'allais voir la faculté du département et j'essayais de demander 1 mois ou 2 à l'avance si ça va être qui mes profs. Et je contactais les profs pour savoir c'est quoi les livres. Mais des fois, ils savent même pas c'est qui le prof avant une semaine avant le cours. Là, ça cause vraiment des problèmes quand ils savent pas c'est qui le prof et ils savent pas c'est quoi les livres d'avance. Fait que c'est vraiment, ça se fait pas mal dernière minute le tout, là.
Est-ce que la responsabilité impute à l'université, au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ou à l'étudiant? En ce sens, il me semble que si, ben en fait, je me leurre peut-être, mais si je paye pour avoir un service, il me semble que la fourniture du bouquin devrait faire partie du service à la clientèle.
Je suis entièrement d'accord. Moi, je parlais juste que c'est important que les étudiants...
Oui, je comprends.
Mais je pense que vraiment la responsabilité est sur le ministère de l'Éducation qui fournit les fonds aux universités pour offrir ce service-là. Et donc, je pense qu'ils ont une responsabilité de rendre l'éducation accessible. Je pense que les facultés sont capables de savoir déjà s'ils ont un étudiant avec un handicap visuel dans leur programme ou pas. Et ils devraient être capables, à part si les livres sont mis à jour, ils devraient savoir normalement c'est quoi les livres pour chacun des cours, d'après moi.
Ouais. Est-ce que le fait que, bon, il me semble que j'ai lu 4500 étudiants avec un handicap visuel à l'université, je sais pas si c'est je présume que c'est au Canada, le petit nombre joue contre nous, en ce sens, c'est pas une préoccupation?
C'est une très bonne question, mais j'aime pas ça quand on parle de nombre, parce que là, on parle vraiment aussi d'une question de quel genre de société qu'on veut avoir. Et puis, je pense qu'on veut une société où tout le monde a accès à l'éducation. Et en plus de ça, il y a vraiment des études qui démontrent que le succès d'une carrière, si on veut, d'une personne aveugle ou le succès à l'emploi ou juste le fait de trouver un emploi pour une personne aveugle est fortement lié à l'éducation. Et plus on monte dans l'éducation postsecondaire, les personnes aveugles sont 2,5 fois plus susceptibles de trouver un emploi de qualité. Fait que le lien avec l'éducation et l'emploi est là. Maintenant, il faut s'assurer vraiment qu'ils puissent passer au travers de l'éducation de façon pas très stressante. Moi, je me souviens qu'à chaque session, quand je recevais mes livres en retard, je me disais, je vais-tu y arriver?
Bien sûr.
Il y a beaucoup de stress.
Ouais. Qu'est-ce qui est tenté de votre côté?
Beaucoup de choses. En fait, on a commencé en 2018, on a écrit à toutes les universités au travers le Canada pour leur signaler le problème et qu'il faut trouver une solution et qu'on est là pour travailler avec eux pour aller vers une solution. Et puis, au cours de l'année 2019, on a travaillé beaucoup avec un organisme qui s'appelle Université Canada, qui est comme un regroupement de toutes les universités du Canada. Donc, on est encore beaucoup dans une phase de revendication et d'éducation. Et puis, entre-temps, les étudiants qui sont vraiment mal pris, on les suggère fortement de passer au travers des canaux normaux, au travers de leur système éducatif pour avoir les livres. Mais s'ils sont vraiment mal pris, ils peuvent nous contacter. Puis, on a parfois des solutions, comme ici à Montréal, on a une caméra pour numériser les livres. Fait que pour ceux qui sont vraiment mal pris, on peut...
Donc, vous pouvez dépanner.
Oui, c'est ça.
Les services pour étudiants handicapés des universités, peuvent-ils quelque chose ou ils ont comme les mains liées?
Je pense qu'ils ont vraiment beaucoup les mains liées dans le sens que c'est vrai que les personnes aveugles représentent un faible pourcentage des gens qui doivent servir, surtout quand on prend en compte qu'ils sont là aussi pour aider, accommoder les gens qui ont des problèmes de concentration et tout ça. Ça devient qu'on est un peu dilué là-dedans, mais le service vraiment existe, vraiment est là pour des gens avec des handicaps sévères. Fait que je pense que là, ils en ont juste trop entre leurs mains.
Mais parlant de trop entre leurs mains, je veux dire, là, on parle des bouquins qui sont pas disponibles en début de session et que tu as du rattrapage à faire, mais également en début de session, pour plusieurs, c'est l'apprentissage de où est la cafétéria, où est la salle de bain, où est mon local. Tel cours est dans un pavillon, tel cours est dans un autre pavillon. Oubliez pas, là, les gens ont un handicap visuel. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses à absorber dans les débuts d'un cycle qui est très important pour le reste de leur vie. En tout cas, c'est pas simple. C'est le fun que tu m'en parles, c'est le fun que vous vous penchiez sur la situation, mais on dirait que ça bouge pas vite. David Demers, directeur général de INCA Québec. Merci, David.
Merci, Luc. Bonne journée. Merci beaucoup.
Vous écoutez Accès libre.
Ouais, tout à fait. Deuxième partie d'Accès libre, comme dit le monsieur. Avec Maurice Bolduc à la régie, Christiane Campagna devant moi.
Bonjour.
Et il sera question éventuellement du cégep de Granby qui offre une formation sur les environnements multisensoriels. Une chance que j'ai lu l'article, Christiane, parce que je ne savais pas de quoi il en retournait. C'est Éric Blouin qui va nous parler de ça. Ça, c'est vers la fin de l'émission. On a déjà avec nous Mélanie, Madame Beauregard, qui, elle, travaille pour Execo. Il sera question de déneigement. Mais c'est ça, vous l'avez entendu. Christiane va faire sa petite revue de presse.
Oui, ça faisait longtemps, on a sauté une semaine.
C'est vrai.
Alors, les Cubs de Chicago.
Oh, oh, oh!
Oui, monsieur.
Qui joue au troisième but?
Je ne saurais te dire.
Moi non plus.
Non, j'avoue que mes connaissances du baseball ont dégradé, sérieusement, dans les 20 dernières années.
Ils n'ont pas signé de troisième but encore.
Mais malheureusement, ils ont... les autorités locales américaines fédérales, en fait, étudient la possibilité de... qu'il y a une violation de l'American with Disability Act liée aux rénovations du stade de baseball Wrigley Field. À l'origine de l'enquête, il y a eu d'abord un procès intenté par David Cerda, un fan des Cubs qui vit avec la dystrophie musculaire de Duchenne et qui se déplace en fauteuil roulant. Selon lui, en raison du projet de rénovation qui s'est étalé sur 5 ans, Il ne pouvait plus assister au match à son endroit favori, là, aux places où il aimait, et que sa vue sur le jeu bon, était moins bonne et qu'il y avait là une violation. Mais là, ça s'élargit tout ça. Là.
Okay.
Parce que bon, l'équipe a fait valoir que le manque de sièges accessibles en fauteuil roulant dans les loges et les suites de luxe n'était pas une véritable atteinte aux droits de M. Cerda, parce qu'il y avait de toute façon une liste d'attente pour ces loges-là et qui ça se serait jamais rendu à lui sur la liste, finalement. C'était ça leur argument.
Oui, ça c'est ordinaire, parce qu'il peut avoir des gens devant lui sur la liste en question qui aient besoin d'accessibilité. Là.
Mais qui n'ont juste pas fait de poursuite. Et il disait qu'une fois les rénovations terminées, que le nombre de sièges serait conforme à l'ADA. Mais à la suite du procès et de l'achèvement du projet, le département de justice envisage entreprendre une enquête plus sérieuse parce que c'est pas clair qu'on va atteindre le standard. En vertu des règlements de l'ADA, les COBS, seraient tenus de fournir un minimum, mon logiciel de traduction, par bout traduisait pas COBS,
okay.
Et par bout écrivait les louveteaux.
OK.
Je sais pas. On était rendu dans le scoutisme
tout d'un coup.
Donc, sont tenus de fournir un minimum de 36 sièges accessibles pour les 5000 premiers clients. C'est comme ça que c'est formulé dans la loi. Plus un siège supplémentaire accessible pour chaque 200 places supplémentaires. Ce qui, avec le nombre de sièges qui est dans le stade, devrait normalement donner 217 sièges accessibles en fauteuil roulant. Un stade qui peut accueillir quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est quand même pas trop demandé. Mais les COBS n'ont pas été en mesure de dire combien ils allaient avoir à la fin, mais d'après les chiffres qu'ils ont fournis, on arriverait à 159 sièges accessibles en fauteuil roulant à la fin. Ils ont aussi tenté d'évoquer le fait que le stade a 105 ans et qu'il y a des exceptions pour les monuments historiques et que peut-être ils n'auraient pas à se conformer à la loi sur l'accessibilité américaine. Alors ça, c'est pour les COBS.
Quand c'est patrimonial, c'est vrai que c'est plus difficile.
C'est ce que Montréal nous dit. C'est un stade vraiment particulier.
Ben oui. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Ben sinon, aux États-Unis, il y a la compagnie de câbles de distribution Comcast, qui est la première de son industrie à offrir un service à la clientèle en American Sign Language.
Ah, bravo Comcast, qui ont également offert depuis un certain temps appelons-la la boîte, là, mais... En tout cas, le Helix, là?
Oui.
Bon, c'est ça. Ça fait longtemps qu'ils l'ont grâce à Comcast.
Voilà, exactement. Et puis, leur site web, ils vont s'assurer qu'il est conforme au lecteur d'écran. Ils vont avoir une page de FAQ dédiée spécialement à l'accessibilité. Donc, pendant que les COBS coulent l'examen, Comcast fait figure dans l'industrie de la câblodistribution de bon élève pour l'accessibilité.
Mais ça veut dire que c'était pas fait avant et ils n'étaient pas tenus, que ce soit eux ou les autres compagnies, d'offrir de l'ASL sur leur site web ou bien un service à la clientèle avec de la... Tu sais, on pense...
Oui.
Là que t'en parles...
En fait, c'est carrément quand t'arrives sur un site web qu'on vous propose de chatter avec les employés
ou
des discussions. Ben là, il va avoir l'option avec un American Sign Language.
OK. Une sorte d'IVD comme parlait Suzanne Villeneuve la semaine passée.
Voilà, tout à fait.
Est-ce qu'il y a autre chose?
Non, ça va être tout pour cette semaine.
Alors, vous voulez que je me tourne vers notre agente de défense des droits et qu'est-ce qu'elle a également? Elle est porteuse des dossiers habitation et vie municipale chez Execo. Mélanie Beauregard, bonjour.
Bonjour, Luc.
L'année passée, ça date de février, la Ville de Montréal avait annoncé une politique voulant offrir dans les 19 arrondissements un service de déneigement, disons, individuel aux gens qui sont avec des limitations, de façon à ce qu'ils puissent sortir de chez eux, aller au débarcadère du transport adapté. On avait parlé avec Émilie de chez vous et M. Parenteau qui est en charge du déneigement. On s'était dit, ça va prendre un certain temps avant que tout ça s'organise, mais il y avait du bon vouloir. On en est où maintenant que, bon, on a eu de la neige en décembre, en novembre, et éventuellement, on va en avoir encore?
Oui, pour où on en est rendu, l'information, on l'obtient au compte-gouttes.
Okay.
Donc, c'est vraiment difficile d'obtenir l'information. Il y a des arrondissements qui semblent prêts, il y en a d'autres que non. Donc, nous, chez Execo, on a essayé d'obtenir le plus d'informations possible. On a on a demandé à nos membres de d'appeler au 311 pour obtenir l'information, mais de leur côté, il n'y avait rien. Le 311 n'était pas en mesure de leur fournir l'information.
Oh, OK.
Donc, à part pour quelques arrondissements, mais là, ça commence à sortir, là, comme depuis deux semaines, là. Moi, j'actualise la page du 311 pour le programme, puis des fois, l'information sort, mais ça sort par compte-gouttes.
Ouais. Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce qu'on peut confirmer jusqu'à maintenant?
Oui, ben c'est ça. On peut confirmer qu'il y a trois arrondissements que le service...
Encore?
Qui est non offert.
OK, non offert.
Qui est non offert.
Okay.
Donc, c'est ça, ça semble... Moi, mon constat, c'est que la ville ne semble pas prête et le service programme, il est asymétrique selon les arrondissements. Donc, il y a trois arrondissements que c'est non offert. À Hunsic, Cartierville, ça semble juste pour les aînés. Donc, les personnes en situation de handicap, il faut que je creuse.
Oui, mais les jeunes sont capables de pelleter, mes amis. Ils sont fringants.
Oui, mais les personnes... Mais c'est ça. Donc, sinon... À Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, moi, j'ai fait des appels et j'ai pas eu de retour de message parce que, dans le fond, il faut contacter le CLSC, mais là, de ce côté-là.
Le CLSC?
Oui, c'est ça. Ça dépend des arrondissements parce qu'il y a des arrondissements que c'est un organisme qu'on contacte directement. Sinon, il y en a d'autres, c'est passé par le CLSC. Donc, c'est vraiment différent selon la formule choisie. Sinon, quand j'avais appelé, parce que les premiers arrondissements qui offraient le service, c'est le Plateau et Ville-Marie.
Puis il y avait Villeray aussi, me semble?
Non.
Non? OK.
Non. Ville-Marie, puis les deux, le service, en fait, pour les deux, c'est avec ta page. Puis moi, j'ai appelé, là, j'ai réessayé d'appeler la semaine passée, mais j'ai pas eu de retour d'appel, évidemment.
Ta page qui est le nom de l'organisme qui avait le contrat.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Puis dans le fond, on appelait directement avec eux, puis de leur côté, c'était complet. Donc c'était, je pense...
OK, il y a une limite de clients, là.
Oui, ben c'est ça, mais on sait pas... trop, c'est quoi cette limite-là?
Mmh.
Ça varie, je pense, selon les arrondissements. Et pour le Plateau, Ville-Marie, c'est ça, c'était complet. Merci, Hochelaga-Maisonneuve. J'ai réussi à avoir l'information que ça allait être 30 portes qui allaient être déneigées au total.
OK.
Donc, c'est très peu. Sinon, Rosemont, de leur côté, c'est très... l'information n'est pas encore sortie. J'ai posé la question au conseil d'arrondissement. De ce côté-là, aucune information. Ben, ils ont dit que le lendemain, il y avait une rencontre pour planifier ce programme-là.
Okay.
Mais il n'y a aucune information. J'ai rappelé au 311 la semaine passée, aucune information qui circule. Saint-Léonard, c'est l'arrondissement que je pense qui est le plus près.
Ouais.
Puis, parce que j'ai appelé, la dame m'a dit qu'ils ont commencé à faire le déneigement. Donc, leur brigade neige est complète. Puis on a commencé, puis on peut toujours s'inscrire si on est en mobilité réduite.
Okay.
Donc là, de ce côté-là, ça allait bien. Sinon, pour les autres, c'est pas sorti encore. Par exemple, Verdun, on s'entend que c'est quand même l'arrondissement de Jean-François Parenteau.
Mm-hmm.
Et on se serait attendu peut-être à ce qu'il y ait des mesures, mais ça s'en vient, c'est à suivre. Mais là, il y a des problèmes de main-d'œuvre qui soulignent. Puis selon... l'information que j'ai eue au conseil d'arrondissement de Verdun, ça serait vraiment un programme de déneigement d'appoint. Donc, eux, ils ont pris une résolution pour favoriser le déneigement pour les personnes à mobilité réduite, mais ils soulignent que c'est un programme de déneigement d'appoint.
Quand tu parles de programme d'appoint, c'est quoi? C'est on y va à la tempête, dans le sens qu'on s'adapte de semaine en semaine?
Ben, je sais pas, eux... comment ils comprenaient.
Okay.
Moi, comment je le comprends, mais ça c'est un peu le problème de ce programme-là qui est une bonne idée dans le sens
au départ,
que...
Là, oui.
C'est ça, au départ, c'est une bonne idée, mais ça reste que ça ne règle pas le problème de fond. Donc, le problème de l'enjeu de l'accessibilité universelle, la ville le délègue aux arrondissements qui, eux, le délèguent à des organismes.
Mais
ils n'ont
pas le choix.
Oui.
C'est pas juste l'accessibilité au niveau du déneigement. C'est la même chose pour les terrasses, c'est la même chose pour les... C'est le problème, c'est la foutue municipalité où on n'est pas une ville, une île, mais on ne retournera pas en arrière, mais mm-hmm. C'eût été tellement plus avantageux.
Oui, ben c'est ça. Mais tu sais, on comprend qu'il faut qu'ils délèguent, ça va, mais ça reste que le problème de fond de l'accessibilité universelle, des politiques plus contraignantes, ne sont pas là, parce que là, on va dire, on va faire un déneigement d'appoint, dans le sens qu'on va pallier au problème en allant déneiger chez certaines personnes à mobilité réduite, mmh. plutôt que de régler. Donc, c'est vraiment pas toute la chaîne du déplacement qui est pris en compte, mais c'est vraiment le premier maillon, si on veut, de cette chaîne.
Est-ce qu'il y a des arrondissements où on s'inscrit à l'arrondissement et d'autres arrondissements où on s'inscrit auprès de l'organisme mandaté ou à chaque fois, c'est auprès de l'organisme?
C'est auprès de l'organisme okay. ou du CLSC.
Ou du CLSC, oui, ouais. C'est ça. Fait que là, il faut savoir c'est quoi quel organisme qui s'occupe de nous selon l'arrondissement dans lequel on réside. Les critères pour avoir droit au déneigement, est-ce qu'ils varient d'un arrondissement à l'autre ou au moins là-dessus, on s'entend?
Ça varie aussi d'un arrondissement. Oui, ben oui. Par exemple, je vais juste vérifier, mais en Sixth, je pense que c'est à partir de 65 ans
et
plus.
Ah oui, c'est vrai, tu disais, juste les aînés.
C'est ça. En Sixth, c'est être aîné. Mm-hmm. Je pense que c'est 65 ans et plus. Saint-Léonard, c'est 65 ans et plus ou être en situation de handicap.
OK.
Mais ça, il faut avoir une référence du CLSC. Il faut avoir une preuve de mobilité réduite.
Ouais. Mais en une six, si j'ai une limitation fonctionnelle et que je ne suis pas âgé de 65 ans, je dois me débrouiller pour faire déneiger mon...
Moi, je pense que oui. Okay. Parce que, dans le fond, ANSIX, il indique sur le site que si vous êtes suivi par un intervenant de l'équipe du maintien à domicile de votre CLSC, communiquez avec lui. Donc, il faut vraiment comme mm-hmm. être déjà pris en charge par le CLSC pour...
OK. Est-ce que d'un CLSC à l'autre, ou en tout cas, la limitation fonctionnelle varie ou, comme je sais pas, moi, il y a eu une certaine époque où les personnes handicapées visuelles n'avaient pas droit au transport adapté, mais les personnes à mobilité réduite avaient droit. Là, maintenant, les personnes handicapées visuelles et les gens qui ont de la difficulté à déambuler ont le droit. Est-ce que c'est la même chose pour le déneigement? Qui a droit? Mis à part les aînés, là.
C'est pas indiqué. Dans le fond, c'est être personne à mobilité réduite.
Okay.
Donc là, faut toujours avoir la référence du CLSC. Donc si le CLSC reconnaît que la personne est à mobilité réduite, peu importe le handicap, j'imagine que l'organisme va prendre la candidature, la demande en considération.
OK. C'est quoi? Bon, est-ce que vous comptez faire quelque chose? J'entends là, que tu prends des informations, tu es à monter un dossier de un, et en même temps, ben, avec ces informations-là, tu peux aider les gens qui t'appellent, puis qui se demandent, moi, je fais quoi pour avoir du soutien dans le déneigement chez nous? Mais mis à part ça, là, est-ce que vous envisagez achaler M. Parenteau?
Ben oui, ça, c'est certainement dans les plans. Puis justement, on relance l'escouade neige cette année, le questionnaire pour appuyer justement, continuer à avoir des données pour appuyer nos revendications par rapport à la neige. Et il va y avoir une section sur ce programme-là pour justement documenter comment ça se passe réellement sur le terrain.
Ouais. Quelles sont vos attentes, Mélanie, en ce sens? Bon, une fois qu'il neige, ça peut être difficile, là. Je sais que dans le monde idéal, là, à 6h30, c'est déneigé, tout est beau, et toutes les maisons sont faites avant 6h30 pour que quand le transport adapté vient me chercher pour aller au travail, je suis en mesure... Mais ça, c'est en théorie. Quelles sont les attentes réalistes dans un programme comme celui-là?
Bonne question. C'est vraiment une... je pense que les attentes réalistes dans le sens que c'est juste d'assurer qu'il y a un arrimage aussi entre le déneigement de la rue puis le déneigement des portes, donc de la porte au trottoir. Mm-hmm. Donc, s'assurer au moins qu'il y a une coordination dans le déneigement. Donc, je pense que ça serait une attente, mais est-ce qu'elle est réaliste ou pas? Mais c'est ça, il va falloir l'explorer cette année, vu que c'est la première année du programme, voir comment ça se passe. Mais c'est sûr que ça crée beaucoup de frustration parce que du côté, par exemple, des membres d'Execo, ça fait plusieurs années qu'ils militent pour un meilleur déneigement. Puis là, on se fait donner ce programme-là, on se fait proposer ce programme-là, puis là, on arrive, puis on a beaucoup de frustration.
Ouais. Mais on pouvait se douter, là, je me souviens d'avoir conclu mon entrevue avec Émilie et M. Parenteau l'année passée en disant, bon, 19-20, ça va être compliqué, 20-21, on veut que ce soit à 100% productif. M. Parenteau, et ça, je trouvais ça intéressant, disait idéalement, ce qui serait le fun, c'est les contracteurs qui ont le mandat de déneiger, ce sont eux qui ont le mandat également de déneiger les maisons des particuliers qui demandent de l'aide. Parce que c'est pas mal plus rapide en charrue que la gang qui court en arrière avec la petite pelle pour déneiger le sentier, les marches ou la rampe d'accès. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Ça va être intéressant de suivre ça. Mais j'entends que c'est pas parce que c'est pas simple qu'il faille juste garder les bras croisés, puis surtout là, quand les arrondissements n'aident que les aînés, là, ça, mm-hmm. ça c'est inacceptable. Madame Beauregard, merci beaucoup. C'était la première fois. On va sûrement avoir d'autres occasions de se recroiser.
J'espère.
Vous êtes chez Exécoute depuis combien de temps, vous?
Depuis septembre.
Bon, ben, ça me fait plaisir, lâchez pas. Puis gardez votre job.
Parfait.
Éric Blouin, lui, sera avec nous. Il est enseignant en éducation spécialisée au cégep de Granby. Il sera question de cette offre de formation sur les environnements multisensoriels, offre en ligne. C'est intéressant, mais d'abord, une fille dont j'aime beaucoup la voix, Sophie Baudet, avec les petits chanteurs du Mont-Royal.
Au pied de la porte, je vois la lumière, je m'assois. Papa, je sais tu m'entends, je ris doucement, ouvre-moi. Maman fait les beignes, que fais-tu derrière? Elle t'attend. J'entends découper le papier glacé des présents. Et voilà le chat qui s'en vient vers moi tendrement. Tous les souvenirs reviennent. Surtout les jours de fête, surtout les jours d'amour reviennent toujours. Tous les souvenirs reviennent toujours. Surtout les jours de fête, surtout les jours d'amour reviennent toujours. Je reviens souvent tous les ans, bercer la mémoire de mon cœur d'enfant comme avant. Le chat est parti, ton amour aussi, tout là-haut. Maman fait les beignes, chantant l'opéra. C'est Pavarotti et des zooms dormants juste pour toi. Tous les souvenirs reviennent toujours. Sur tous les jours de fête, sur tous les jours d'amour reviennent toujours. Tous les souvenirs reviennent toujours, sur tous les jours de fête, sur tous les jours d'amour, reviennent toujours, tous les souvenirs.
Ouais, vous aurez probablement compris que la pièce s'intitule « Tous les souvenirs ». Éric Blouin, bonjour.
Oui, bonjour.
Je peux vous appeler Éric, vous pouvez m'appeler Luc, tout est beau. Vous êtes enseignant en éducation spécialisée au cégep de Granby. On vous parle parce qu'il y a une offre de formation sur les environnements multisensoriels. Je trouve ça sympathique parce qu'en même temps, c'est une offre en ligne. Donc, parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y avait que le cégep de Granby qui offrait ce type de cours-là, mais c'est offert à tout le monde. C'est en ligne. Qu'est-ce qu'un environnement multisensoriel et à qui ça s'adresse, cette formation-là?
Bien, un environnement multisensoriel, c'est le plus classique, c'est la salle blanche. C'est un environnement où on cherche à calmer la personne et à offrir de la stimulation des différents sens, des sept sens, puis à entrer en contact avec une personne qui est moyennement, plutôt lourdement handicapée au départ, mais on se rend compte de plus en plus que c'est utile aussi pour des clientèles en hyperactivité, en milieu scolaire, mettons, pour les rendre plus aptes, entre guillemets, là, à faire de l'académique puis à faire des apprentissages par la suite.
Bon, là, vous avez fait sursauter pas mal de monde au Québec parce que vous vous êtes rendu à 7 sens. Moi, j'avais appris qu'on en avait 5. Pouvez-vous m'ajouter les deux qui me manquaient?
Oui, il y a le proprioceptif et le vestibulaire, dans le fond, qui touchent un peu, pour rendre ça très simple, là, à la perception de mon corps dans l'espace,
okay,
et au sens de l'équilibre, en gros.
OK, donc ça, c'est un sens qui peut varier selon combien de bières j'ai pris, mais il y en a d'autres pour qui c'est toujours instable, c'est ce que je comprends.
Oui, puis il y a des gens qui vont préférer les vibrations d'une moto, d'autres vont préférer le sentiment des vagues sur un voilier.
Ah,
donc,
ah oui, c'est vrai ça. C'est intéressant.
Au niveau vestibulaire, on n'est pas tous pareils non plus.
OK, OK. À qui s'adresse la formation?
La formation s'adresse à des gens qui sont en relation d'aide. Pour être admis là, d'emblée, ça prend un DEC ou un AEC en éducation spécialisée, en éducation à l'enfance ou d'autres techniques là, associées à la relation d'aide. On peut aussi avoir un DEC en soins infirmiers ou toute autre personne qui désire être admise peut soumettre sa candidature puis sur la base de l'expérience, du vécu, parce que je pourrais être un parent qui a un enfant à besoins particuliers, qui désire faire une formation, mais dans ce cas-là, on étudie le dossier, on fait passer un examen d'admission, puis la personne peut être admise.
J'ai lu, 405 heures en ligne, ça c'est combien d'heures semaine, combien de semaines?
C'est des cours de 45 ou 60 heures, qui est un standard collégial, sur 15 semaines.
OK.
Et puis, c'est en ligne en grande partie, mais il y a un peu de présentiel aussi là, pour le premier cours qui a démarré en novembre. Les étudiants doivent se présenter deux samedis, une journée complète. Donc, le premier cours, c'est un samedi, ils viennent de, à peu près de 8 heures à 4 heures.
Okay.
Puis, à la fin de la session, il y aura une autre journée aussi. Là,
donc, les gens d'Havre-Saint-Pierre, là, pensez-y deux fois avant de vous inscrire, là, c'est ce que je comprends.
Pour la journée en présentiel, oui. L'objectif étant de l'étendre le plus possible puis de le mettre en ligne le plus possible. Pour le cégep de Granby, là, c'est une première expérience avec la formation en ligne. Il y a des exigences aussi qui viennent de la CIAS puis de l'ISNA, qui sont des organismes, là, mettons la CIAS, là, qui est l'Association québécoise des intervenants en approche Snowsland.
Mm-hmm.
Donc, eux, ont aussi certaines exigences, là, en lien avec la présence, le contact avec l'enseignant. Puis, on est en train de développer les choses dans le but de l'ouvrir le plus possible et de le mettre en ligne le plus possible.
Éric, qu'est-ce que je vais apprendre dans ce 405 heures-là que je n'ai pas dans mon AEC ou dans ma technique?
Par rapport à nos étudiants d'éducation spécialisée au cégep de Granby, dans un cours, ils ont un bloc de 4 à 8 heures environ sur l'approche multisensorielle. Dans un autre cours, ils ont un autre bloc aussi, donc ils vont toucher peut-être 10-12 heures à l'approche multisensorielle. On a une salle blanche dans le cégep qui existe depuis une dizaine d'années. Donc, ces étudiants-là vont aller beaucoup plus loin. Ils ont eu une introduction. Pour les autres intervenants, c'est plutôt méconnu ou totalement inconnu, ou ça fait pas partie de la formation. Donc, ils vont avoir un bagage pour créer un environnement favorable à l'intervention, déceler aussi et évaluer les besoins sensoriels de leur clientèle, sans devenir des ergothérapeutes, évidemment, puis pouvoir intervenir en fonction un peu de ça, là. Donc, ils vont développer des habiletés qu'ils n'ont pas vues, des choses qu'ils n'ont pas vues dans leur formation standard.
Jusqu'à maintenant, bon, je pense que c'était novembre, la première session de cette nouvelle offre-là.
Oui, exact, ça a commencé le 20
novembre. Est-ce que ça a été rempli? Est-ce que, bon, souvent, tu sais, quand on commence, il y a des petites adaptations, ça ne roule pas tout à fait comme on le souhaite. Comment vont les choses?
Les choses vont très bien. On a rempli le groupe. On peut faire des groupes jusqu'à 20 étudiants. Ce groupe-là est complet. On a déjà des gens qui attendent la prochaine cohorte qui va démarrer en février.
Mm-hmm.
Puis, en plus, les gens qui vont s'inscrire en février pourront, pendant qu'ils suivent le premier cours, s'inscrire au deuxième cours qui va débuter en mars. Parce que le premier puis le deuxième cours là, peuvent se faire en même temps. Là.
Donc, c'est un cours par session, mais... Bon, 45 heures, 405 heures au total, c'est quoi? C'est à peu près 9 cours pour avoir...
En fait, c'est 4 cours, puis un projet intégré qui, lui, compte 195 heures.
D'accord.
Dans ce projet-là, il y a une trentaine d'heures de cours, puis 23 jours de stage.
Est-ce que le cégep nous aide à nous placer ou c'est nous qui devons trouver notre milieu de stage?
Non, c'est principalement les étudiants qui doivent trouver leur milieu, mais habituellement, vu que c'est un AEC de spécialisation, la plupart des gens qui vont s'inscrire, ou j'ai envie de dire tous, ont un diplôme dans le domaine, travaillent dans le domaine, ou ont un enfant, un membre, sont aidants naturels, donc trouver un milieu à partir de là, c'est plutôt simple. Puis sinon, bien, nous, on a quand même une grande banque de milieux dans lesquels les étudiants pourraient aller faire leur stage. Là.
Pour février jusqu'à maintenant, il reste à peu près combien de places de disponibles?
Malheureusement, j'ai pas ce chiffre-là, je le sais pas.
Mais il y a de la... pour le moment, en tout cas, aujourd'hui, il est encore temps de s'inscrire, c'est ce que je comprends.
Assurément, oui, il reste de la place, là. Le groupe n'est pas complet encore. Puis s'il fallait qu'il y ait un deuxième groupe qui se complète, on va les ouvrir. Là. On n'a aucune raison de retarder là, le début des groupes. Là.
OK. Puis pourquoi avoir commencé si tard, novembre plutôt que septembre ou
Ben les AEC, ça suit pas le calendrier scolaire standard. Ça démarre à tout moment. Ça se fait l'été aussi. Donc, c'est pas là, des sessions automne-hiver sur 15 semaines standard.
OK. Ben en tout cas, bravo pour l'initiative. Je rappelle que vous êtes enseignant en éducation spécialisée au cégep de Granby et qu'il est toujours temps, si vous avez eu l'intérêt, en tout cas, de profiter de cette offre de formation sur l'environnement multisensoriel. Du moins, allez sur le site du cégep et peut-être que vous allez avoir des réponses à quelques questions que vous avez. Merci beaucoup, Éric, et ben, joyeuse fête à vous.
Merci à vous aussi.
Merci bien, M. Bolduc. Toi, tu restes là pour J'entends des voix, je présume?
Oui, absolument.
Bon, J'entends des voix, où il sera question de balado. Cette semaine, le balado d'enquête. On va causer avec Julien Morissette, entre autres, de Transistor Média. Donc, Christiane va se joindre à nous. Christiane, que je remercie mille fois pour son apport à Accès Libre. Et on se retrouve pour la dernière de l'année, lundi.